chers auditeurs, avant d'aborder la vie des paroisses du diocèse de Bayonne en cette première moitié du XVIIIe siècle, nous reviendrons quelques instants sur ce que nous avons déjà dit à propos des évêques de cette époque. Une première constatation s'impose. Ce sont d'authentiques pasteurs d'âmes que le roi nomme à Bayonne et que le pape ensuite confirme dans leur charge. Malheureusement, on peut bien le dire, ce ne sont pas des Basques. Mais ils ont acquis une expérience du gouvernement d'un diocèse auprès d'un oncle évêque, comme Monseigneur de Beauvau, ou bien dans une charge administrative importante, par exemple comme vicaire général pour trois d'entre eux. Ils sont choisis dans le milieu aristocratique, noblesse d'épée ou de robe, comme Monseigneur Druillet. Une chose frappe cependant, c'est le temps qui s'écoule entre leur nomination et leur arrivée à Bayonne, près ou plus de 2 ans. Il est vrai qu'ils viennent généralement du nord de la Loire. Les déménagements ne sont pas faciles. On a dit que ce retard s'expliquait par leur peu d'enthousiasme pour une nomination qu'ils considéraient comme un exil. Il ne semble pas que cela soit exact, même s'ils venaient dans un pays dont ils ignoraient la langue, ce qui constituait, sans nul doute, un handicap sérieux. On peut faire une constatation. C'est le peu d'éclat que revêt leur consécration épiscopale. Elle a lieu à Paris, dans la chapelle d'une communauté religieuse, avec les 3 évêques consécrateurs exigés par le droit, bien sûr, mais avec une assistance de fidèles très réduite. Et puis, arrivés à Bayonne, ils ne vont pas y résider longtemps. La maladie met brutalement fin à leur ministère pour 2 d'entre eux, et pour les autres, c'est la promotion à un siège d'archevêque, et 2 d'entre eux mourront archevêques de Paris. Pour l'aider dans l'exercice de son ministère, l'évêque de Bayonne pouvait compter sur un clergé nombreux. Il est certain que, vers les années 1700, le diocèse de Bayonne ne connaît pas une crise des vocations. La situation nous est connue pour le labour grâce aux réponses des curés à la lettre circulaire de Monseigneur de Beauvau en 1703, et pour la Basse-Navarre par les comptes rendus de la visite pastorale qu'un peu plus tard, Monseigneur de Beauvau y fera cette même année. Rappelons tout d'abord qu'il existe à la cathédrale un chapitre, groupe de 12 chanoines, assisté de plusieurs dizaines de prébendiers. Le chapitre nomme le curé de la paroisse de Bayonne, appelé le chapelain majeur. Il a également le droit de présentation à plusieurs paroisses du diocèse. Et par le fait même, il en touche une partie des dîmes. S'il ne nomme plus l'évêque depuis 1516, quand le siège devient vacant, c'est lui qui nomme aux diverses charges de la curie qui deviennent illégalement vacantes, y compris les vicaires généraux. D'ailleurs, quand le nouvel évêque est nommé, et avant qu'il ait pris possession de son siège, le chapitre lui envoie un titre de vicaire général. Toutes les paroisses du diocèse ont leur curé et presque toujours plusieurs vicaires, sans compter un nombre parfois assez impressionnant de prêtres auxiliaires. Ainsi, à Saint-Jean-de-Luz, avec le curé et ses 2 vicaires, on dénombre en tout 28 prêtres. 2 autres paroisses dépassent le chiffre de 20, Ustaritz, qui en a 22, et Asparin, 21. 5 en comptent entre 10 et 20, Sarre, 18, Urugne, 17, Cibourg, 16, Saint-Pé, 15, Asquin, 13. Par contre, un seul prêtre, en plus du curé, vit à Urte. La situation est différente en Basse-Navarre. Il est vrai que les paroisses y sont plus petites et les ressources bien moindres. Plusieurs paroisses n'ont pour assurer le service que le curé. Par exemple, assez curieusement d'ailleurs, à Saint-Jean-Pied-de-Port. En 1703, il n'y a que le seul curé. Ou bien le curé ne peut compter que sur un seul vicaire, comme à Lacar ou Suesquin. En général, ce sont 3 ou 4 prêtres qui se partagent prébende et obit, c'est-à-dire l'obit, c'est les messes, les services à assurer pour les défunts. Cependant, ils sont 5 à Yoldi, 8 à Ossès et chiffre record, 9 à Baïgorri. Le recrutement est local, parler local oblige, et surtout rural, mais pas uniquement, surtout à Bayonne. Et puis, à côté des prêtres, on trouve d'autres clercs, c'est-à-dire des hommes qui n'avaient reçu que la tonsure, obligatoire pour recevoir un bénéfice ecclésiastique, et leur vocation s'arrêtait là. On peut constater également qu'un certain nombre de diacres allaient recevoir le sacrement de l'ordre, le presbytère, ailleurs. De 1728 à 1750, 127 prêtres ont été ordonnés sur place, mais toujours à l'évêché, à la chapelle de l'évêché, jamais à la cathédrale. Mais 86 de ces diacres ont reçu des lettres dimissoires, c'est-à-dire une autorisation pour recevoir le sacerdoce en dehors du diocèse. On allait surtout à Dax en ce début du siècle, ou bien à Paris, où l'ordinant pouvait poursuivre et achever sa formation avant de revenir presque toujours à son diocèse d'origine. Sous peu, il pourra se former sur place quand un grand séminaire sera construit à Bayonne. Que penser du statut social et du mode de vie de ces prêtres basques? Sans doute y avait-il entre eux des différences assez marquées, sans être cependant, à mon avis, trop criardes. Le curé de Saint-Jean-de-Luz en donne certainement une idée juste quand il écrit à son évêque que les 28 prêtres qui s'y trouvaient pouvaient être répartis en 3 catégories. Et on peut étendre, je crois, cela à tout le Pays basque. La première catégorie, qui comprenait à Saint-Jean-de-Luz environ 12 sujets, était celle des prêtres nantis de quelques bénéfices ou prébendes. La seconde comprenait ceux qui servaient les fondations des obits et matines. La messe pour un défunt comprenait également le chant d'une partie de l'office de matine. Et la troisième catégorie, enfin, était constituée par les prêtres qui n'émargeaient à aucun bénéfice et à aucune fondation et qui n'avaient pour vivre que les honoraires de messe que les fidèles leur confiaient à diverses occasions. Cependant, même à Saint-Jean-de-Luz, le curé ne devait pas rouler sur l'or. Faisant l'inventaire des charges qui lui incombaient, il nous révèle qu'en plus de la location, fort onéreuse, dit-il, d'une maison presbytérale, l'entretien et les gages de 3 ou 4 domestiques, il doit prévoir, en cas d'absence ou de maladie, la rétribution de 150 messes qui sont de son obligation. Ce qui fait, ajoute-t-il, qu'un curé de Saint-Jean-de-Luz est obligé de se mettre dans les confréries de prêtres qui s'entr'assistent dans les maladies. Nous apprenons ainsi qu'il existait déjà à l'époque une sorte de mutuelle Saint-Martin avant la lettre. Pour les prêtres simples auxiliaires, il est probable que beaucoup d'entre eux partageaient le sort de ceux de Saint-Martin d'Arbelou, dont nous savons qu'ils vivaient dans leur famille et qu'ils n'y connaissaient pas par conséquent ni la solitude ni la misère. Selon le droit coutumier du Pays basque, la maison avait le devoir de garder ou d'accueillir le fils ou la fille célibataire qui n'avait pas d'autre habitation. Nous verrons la prochaine fois ce qu'était la vie du peuple chrétien au diocèse de Bayonne.